Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Catalans de nouveau dans les rues de Barcelone aujourd'hui. C'est la Diada, jour de fête nationale. 400 000 personnes sont attendues dans la capitale régionale, mais un an après le référendum illégal, l'heure est encore à l'amertume plus qu'à la lutte. Nous irons sur place.
Les États-Unis ne veulent plus discuter avec les Palestiniens. Ils ferment leur mission à Washington et s'en prennent en même temps à la Cour pénale internationale.
Les grandes manœuvres militaires russes débutent aujourd'hui dans l'Est sibérien avec 300 000 soldats mobilisés. La Chine les accompagne. Nous irons à Pékin pour comprendre pourquoi.
Et puis dans cette édition encore, vous entendrez le président du syndicat national des policiers municipaux. Il souhaite armer tous ses collègues. Un rapport parlementaire va dans son sens.
Zoom également sur un collectif qui lutte contre le travail du dimanche et le travail de nuit et qui gagne souvent ses combats. À Paris par exemple, l'enseigne Monoprix ne pourra plus ouvrir après 21h. Et pendant que nous parlons, que devient le Modem? Jusqu'ici, dociles alliés de La République En Marche, les députés proches de François Bayrou font monter la pression. C'est ce que nous dira Frédéric Seyss dans son billet politique à 8h16. Le pouvoir espagnol aura-t-il réussi à faire taire les indépendantistes? Élément de réponse à venir aujourd'hui, car toute la Catalogne est appelée à se retrouver à Barcelone pour célébrer la Diada, la fête nationale catalane, symbole de la lutte pour l'autonomie. Cette journée de commémoration marque le souvenir du siège de Barcelone en 1714, dernière bataille de la guerre de succession d'Espagne, à l'issue de laquelle le roi Philippe V a aboli l'exécutif régional. Célébrée en secret jusque sous la dictature de Franco, elle est devenue depuis quelques années l'espace de revendication des organisations indépendantistes. Un an quasiment après le référendum illégal qui avait plébiscité le oui à l'indépendance, cette journée de mardi a évidemment une saveur particulière pour ses partisans. Certains militants sont toujours emprisonnés et leurs camarades manifestent toujours pour demander leur libération. Olivier Pujade.
L'hymne catalan pour une poignée d'irréductibles, la ferveur de l'an dernier a laissé place à l'amertume. Le rêve d'indépendance ne semble plus d'actualité, ils se battent désormais pour obtenir la libération et le retour de leur leader. 7 sont en exil, 9 ont été placés en détention, injustement emprisonnés d'après Judith.
Ils risquent des peines plus importantes que s'ils avaient tué quelqu'un. Certains risquent 30 ans pour être montés sur une voiture, c'est un procès politique. La seule option que nous laisse l'État espagnol, c'est la voie unilatérale. Ces gens-là ne négocient pas, ils ont une mentalité impérialiste, j'allais dire française. Pour eux, négocier, c'est céder.
Eux non plus ne veulent pas céder, ils n'attendent rien du changement de gouvernement à Madrid. Le socialiste Pedro Sanchez a pourtant ouvert la voie au dialogue. Assunta n'y croit pas.
Rien ne va s'améliorer, parce que ce que nous voulons, c'est devenir une république. Et ça, ils ne nous l'accorderont pas. Ils n'ont qu'une chose en tête, une seule Espagne, indivisible. C'est une vision franquiste, encore présente aujourd'hui.
Allergiques au pouvoir central, privés de leur leader, les indépendantistes catalans semblent aujourd'hui à court de stratégie, mais ils refusent d'abandonner la rue.
Et selon la puissante association indépendantiste ANC, la manifestation aujourd'hui pourrait rassembler plus de 400 000 personnes. Ils étaient 1 million l'année dernière. Le Parlement européen se penche à partir d'aujourd'hui sur une éventuelle procédure de sanctions contre la Hongrie. Les députés vont discuter d'un risque clair de violation des valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Il s'agit de l'article 7 à l'encontre donc de la Hongrie. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban va plaider sa cause ce matin à Strasbourg devant les députés. Au chapitre des instances à dimension mondiale et de la question des droits de l'homme encore, la Cour pénale internationale sera sanctionnée si elle s'en prend aux États-Unis, à Israël ou à d'autres alliés des Américains. Voici la nouvelle menace sans précédent, celle-ci, menace des États-Unis. Ils reprochent à la CPI une enquête, pas encore ouverte, qui porterait sur des crimes de guerre présumés des militaires américains en Afghanistan. Le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, accuse l'instance internationale d'être inefficace, irresponsable et carrément dangereuse, dit-il. Washington, qui par ailleurs punit les Palestiniens en fermant leur mission à Washington, l'Organisation de libération de la Palestine n'y sera plus représentée. Après le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, après l'arrêt du financement de l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui aide les réfugiés palestiniens, c'est un nouveau coup dur pour ces Palestiniens, inédit là aussi, estime Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Ce que les Américains veulent envoyer comme message, c'est qu'ils n'ont même plus envie de discuter, de négocier avec les Palestiniens qui ne sont en rien des partenaires. Les décisions précédentes étaient bien sûr très largement favorables à Israël. Mais là, on va encore plus loin en disant, bah, finalement, c'est pas vraiment la peine de parler aux Palestiniens. Nous ne voulons plus, nous n'avons même plus les voir à Washington. On sent qu'il y a un repli général sur soi des Américains qui ne veulent plus, en tous les cas, négocier en position d'égalité, qui veulent imposer leur volonté aux autres nations. Et comme les Palestiniens n'ont pas accepté les décisions américaines, eh bien, carrément, on ferme leur bureau. C'est quand même là un coup de Trafalgar et c'est vraiment un signe tout à fait particulier dans un contexte compliqué pour les Palestiniens qui aura des répercussions au-delà, bien sûr, de la question des Palestiniens. C'est toute la vision du monde arabe, pas tellement des gouvernements, mais des opinions publiques arabes qu'ils vont avoir des États-Unis.
Le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, avec Christian Chéneau. Plus de 100 personnes sont mortes dans le naufrage de deux bateaux de migrants au début du mois de septembre, au large des côtes libyennes. Parmi les victimes, Médecins sans frontières évoque au moins une vingtaine d'enfants. L'exode massif depuis la province syrienne d'Idlib a commencé. Ces réfugiés-là ne passent pas par la mer, mais remontent vers le nord, la Turquie notamment. Plus de 30 000 Syriens sont déjà déplacés depuis la fin de semaine dernière, en quelques jours donc. Ils fuient Idlib, les frappes aériennes du régime et de l'armée de l'air russe. L'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle en Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit une deuxième fois à ce sujet aujourd'hui, à la demande de Moscou. Eux ne font pas la guerre, mais vont la mimer pendant une semaine. 300 000 soldats russes se déploient à partir d'aujourd'hui en Sibérie orientale autour de Vladivostok. C'est le début des grandes manœuvres annuelles de l'armée russe. Quelques chiffres sur cette puissance affichée. 36 000 véhicules utilisés, 1 million d'avions, 80 navires, 1 millier d'avions. Cette année, la Russie collabore avec le contingent de l'armée chinoise, ce qui n'est pas anodin, Dominique André.
La Chine se prépare-t-elle à un conflit militaire? L'armée chinoise, qui mène régulièrement des exercices conjoints dans la région avec les Russes, participe pour la première fois à des manœuvres de cette envergure. À cela, plusieurs raisons. L'armée populaire de libération, qui monte en puissance sous la présidence de Xi Jinping, a besoin de s'entraîner et de tester ses capacités au combat. Elle le fait avec la Russie, devenue une puissance militaire de premier plan qui est intervenue en Syrie, loin de son territoire national. D'un point de vue diplomatique, la participation chinoise montre le renforcement de la relation sino-russe dans un contexte de crise avec les États-Unis. Alors que l'armée chinoise s'entraîne en Russie, Xi Jinping participe au même moment au 4e Forum économique de l'Est à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, aux portes de la Chine. C'est la première fois que le président chinois se rend à ce rendez-vous dans le grand port russe du Pacifique. Si la Chine et la Russie ne sont pas ce qu'on peut appeler des alliés, ces manœuvres montrent que les deux puissances nucléaires peuvent se rapprocher. C'est un signal très fort envoyé à Donald Trump.
Et ce déploiement massif en Sibérie est déjà dénoncé par l'OTAN qui y voit la répétition d'un conflit de grande ampleur.
8h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un rapport parlementaire propose d'armer tous les policiers municipaux.
C'est le député La République En Marche et ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, qui souhaite rendre l'armement de la police municipale obligatoire pour tous. Avec la parlementaire Alice Toureau, ils remettent un rapport au Premier ministre cet après-midi. Aujourd'hui, 44% des policiers municipaux sont équipés d'une arme à feu. Faut-il rendre cela obligatoire pour tous les agents? Question posée au président du Syndicat national des policiers municipaux, Yves Bergerat. Voici sa réponse.
Tous les policiers municipaux ont les mêmes missions, ont les mêmes risques, ont les mêmes expositions aux dangers. Or, pour faire le même travail, il y a des policiers municipaux qui sont armés, d'autres qui ont juste un gilet pare-balles, d'autres qui ont juste des bombes lacrymogènes, d'autres des tanfas. Nous, on voulait que ça soit uniformisé, qu'il y ait une obligation d'armer tous les policiers municipaux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des polices à deux ou à trois vitesses. On est les primo-intervenants, on est 24 heures sur 24 sur la voie publique. À ce titre, je trouve que c'est pas normal d'exposer des collègues sans un armement létal pour pouvoir se défendre ou défendre des personnes qui sont en danger. Quel autre fonctionnaire des autres forces de sécurité serait prêt à faire les mêmes missions que la police municipale sans armement ?
Emmanuel Macron a passé 5 heures hier dans un centre d'ATD Quart-Monde à Noisy-le-Grand, au nord-est de Paris, en toute discrétion. Le chef de l'État a pris le temps de discuter avec des bénéficiaires et des bénévoles 3 jours avant la présentation de son plan pauvreté. Ce matin, une étude Ipsos, le Secours populaire, estime qu'un quart des Français a du mal à se nourrir correctement tous les jours, à manger notamment 5 fruits et légumes par jour, faute d'argent. Le réfrigérateur et la santé comme variable d'ajustement face à la pauvreté. Le gouvernement lui réfléchit à modifier les règles des minima sociaux. Selon une étude dévoilée ce matin par l'ADRES, la Direction de la Recherche et des Statistiques, l'État a dépensé en 2016 57 milliards d'euros pour les minima sociaux, soit 2,6% du PIB. Pour l'ensemble des prestations sociales, la France est le pays européen qui dépense le plus en matière de santé notamment, car l'ADRES explique que ces dépenses augmentent drastiquement de 3,8% en moyenne par an. Un phénomène qui devrait s'amplifier avec l'augmentation du nombre des personnes âgées en France, Jean-Marc Sardon.
Que les dépenses de santé progressent avec l'âge, le constat n'est pas nouveau. En revanche, les derniers éléments de l'étude montrent clairement une tendance au gonflement des coûts. Déjà, les dépenses de santé des personnes en affection longue durée sont en moyenne 7 fois plus élevées que celles des autres assurés. Comme ce sont les seniors qui sont les plus touchés, 3 fois plus que les jeunes en moyenne, ça signifie qu'avec l'allongement de la durée de vie, ces coûts devraient continuer à grimper, car ce sont les octogénaires qui atteignent les taux les plus importants. Maladies cardiovasculaires et diabète jouent pour une majorité de signalements, et avec l'avancée en âge, on assiste aussi à une accumulation plus fréquente de pathologies, ce qui alourdit d'autant les dépenses. Quels que soient les efforts pour comprimer les dépenses de santé, on retrouve ce poste sensible qui concerne les personnes âgées à plusieurs niveaux de la chaîne des soins hospitaliers, ambulatoires, de transport et de prise de médicaments. Un vrai dilemme en tout cas pour l'État en quête d'économies sur la santé, sans que les patients n'en aient forcément conscience tant que le reste à charge, ce qu'ils doivent débourser de leur poche, reste stable malgré tout. Autrement dit, tant que les patients n'en subissent les conséquences sur leur portefeuille et aussi longtemps que le filet social sera maintenu.
Les magasins Monoprix devront fermer à 21h dernier carat à Paris et même dans les zones internationales touristiques qui avaient obtenu le droit de faire travailler ses salariés jusqu'à minuit. La justice vient d'en décider ainsi pour l'enseigne Monoprix donc, car l'entreprise n'a pas respecté les exigences légales, augmentation des salaires, garde d'enfants notamment. C'est une victoire pour les syndicats du commerce qui luttent depuis 10 ans contre le travail de nuit et le travail du dimanche. Victoire pour un collectif notamment, Annabelle Grelier.
Il est la bête noire des grandes enseignes, le Clic-Pay ou le collectif de syndicats du commerce de Paris, mal vu par leur propre confédération nationale qui les accuse d'être procéduriers. Le Clic-Pay ne désarme pas, il attaque et il gagne, comme nous l'explique l'un des porte-parole CGT, Karl Gazi.
Je rappelle que les pouvoirs publics ne font aucun effort pour faire respecter les textes impératifs en matière de droit de travail. C'est toujours aux syndicats d'aller devant les tribunaux pour les faire respecter. Si les choses se font comme ça, par glissement successif, sans que personne ne s'y oppose, on va se retrouver avec une société qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à brève échéance. Et ces procès que nous faisons et ces victoires que nous obtenons sont l'occasion de ramener le débat sur la place publique jusqu'à ce que finalement il y ait une prise de conscience la plus large possible que ce qui concerne les salariés du commerce finalement concerne bien tout le monde.
Cette lutte pied à pied que mène le Clic-Pay contre les grandes enseignes dure depuis déjà 10 ans et malgré tout la libéralisation des horaires de travail gagne du terrain.
Toutes nos victoires judiciaires, et elles sont importantes, ont été suivies d'un travail de lobbying intensif des patrons de la grande distribution. Et Macron, on le sait, est extrêmement réceptif à ce travail de lobbying. Et généralement, nos victoires sont suivies d'une modification des textes pour régulariser finalement les infractions que le juge aura punies.
Dernier exemple en date, la loi Macron de 2015 qui a étendu les périmètres autorisant les ouvertures de nuit des commerces, avec notamment la création des zones internationales touristiques. Une loi qui prévoyait des contreparties pour les employés, comme des heures de nuit payées double et des heures de récupération, des aides à la garde d'enfants et le défraiement des transports. Des contreparties qui n'ont pas été respectées par Monoprix.
Excusez-moi de ne pas être une dame. Voici la réponse de Richard Ferrand après avoir été choisi hier par les députés de La République En Marche pour être leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand a maintenant 2 adversaires, 2 femmes, avant l'ultime vote de tous les députés demain. Son candidate, Annie Genevard pour les députés, pour les Républicains, Mathilde Panot pour la France Insoumise. À l'Assemblée nationale encore, un groupe change de nom en cette année parlementaire. parlementaire et en cette rentrée, exit la nouvelle gauche. Revoilà les socialistes, socialistes et apparentés plus exactement. La proposition a été validée hier par un vote à l'unanimité à l'occasion des journées parlementaires du Parti Socialiste. La météo de ce mardi qui débute d'abord en territoire d'outre-mer puisque l'arc antillais est sous la menace de l'ouragan Florence. Passé en catégorie 4, ses vents atteignent cette nuit en moyenne 220 km/h. Il devrait atteindre la côte est des États-Unis d'ici deux jours. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et l'État de Virginie sont en état d'urgence. 1 million d'habitants ont été appelés à se réfugier dans les terres. Pas de vent en revanche et un grand soleil sur la France métropolitaine aujourd'hui mardi. Les quelques nuages bretons vont disparaître à la mi-journée. Et le soleil donne des températures en hausse. 18 degrés ce matin à Brest, 20 à Lille, 22 degrés à Besançon, 23 à Paris-Bordeaux, 24 à Lyon, 28 dès ce matin à Perpignan.